comme les autres. Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
Dutrisac, sans Dutrisac, c'est Antoine Robitaille au micro et je suis ravi de recevoir Frédéric Mercier, chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto, parce que j'ai plein de questions à poser sur l'auto dans laquelle Tiger Woods s'est planté. Bonjour Frédéric Mercier.
Salut, on peut le dire comme ça, oui, planté assez royalement. Puis, bon, d'abord, on fait des petites blagues, mais faut dire il y a une blessure, puis on espère de tout cœur que...
Ben oui, il y a des tiges, hein, il a été opéré, et c'est terrible. Ben oui, c'est vrai que j'ai peut-être abordé ça avec un peu de légèreté, je m'excuse Frédéric.
Il n'y a pas de souci, mais je t'avoue que le gars d'automobile en moi, quand j'ai vu les images, ben tout de suite j'ai voulu savoir c'était quel véhicule qui était impliqué là-dedans. Le véhicule qui était quand même franchement assez amoché, mais on a pu voir avec certaines caractéristiques qu'il s'agit d'un Genesis GV80. Puis je me suis questionné à savoir quel impact cette nouvelle-là pourrait avoir sur la réputation de Genesis, qui est une marque toute jeune, en fait, une marque que bien des gens ignorent encore même l'existence. Je sais pas.
Je pensais que c'était un Chrysler, moi, avec le logo qui avec les ailes. Je pensais que c'était Chrysler.
Ça peut ressembler. Il y a même des petites ressemblances, le logo, puis même le véhicule avec les produits Bentley. Mais c'est bel et bien un Genesis GV80, Genesis qui est la marque de luxe. Qui a été fondé par Hyundai. On retourne en 2015, donc ça fait pas si longtemps que ça. On veut emprunter grosso modo la même stratégie qui a été faite par Toyota avec Lexus ou par Honda avec Acura. Donc Genesis, c'est ça, c'est les produits de luxe du constructeur coréen Hyundai. Puis avec le nouveau GV80 qui arrive pour 2021, c'est un produit qui est tout neuf. Que j'ai même pas encore eu l'occasion de conduire. Pour être franc avec toi, je le conduis pour une première fois la semaine prochaine. C'est un drôle de timing. Puis, je me suis questionné, c'est ça, savoir ben quel impact ça peut avoir. Parce que d'un côté, ben, y a plein de gens qui découvrent Genesis avec cette triste nouvelle-là. Puis, bon, tu connais l'expression, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. De l'autre, par exemple, ben, veux pas, il y a des mauvaises langues qui vont dire que, ben, il s'est planté parce que c'est un produit cheap, puis bon, il y a encore tellement de préjugés face aux véhicules coréens. J'en ai lu des vertes et des pas mûres sur les réseaux sociaux depuis hier.
En même temps, je lisais votre texte, Frédéric. Oui, je lisais votre texte sur le Guide de l'auto, puis il était écrit un VUS intermédiaire de luxe doté de toutes les plus récentes technologies d'aide à la conduite. Là, je me suis dit, coudonc. Est-ce qu'elles ont fait défaut ici?
Écoute, c'est une question. Je sais qu'il y a une enquête en cours. On va l'apprendre. Ce que j'ai lu à date, c'est que bon, la limite de vitesse n'était pas respectée au moment de l'accident. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Est-ce que Tiger Woods essayait ces fameux systèmes de conduite semi-autonome-là pour avoir conduit d'autres modèles de Genesis? Je sais très bien que bon, c'est un véhicule qui est capable, par exemple, peut lâcher le volant sur des routes quand même assez sinueuses, puis le véhicule va être capable de suivre les lignes. C'est pas un système, c'est pas fait pour remplacer le conducteur, c'est fait pour assister le conducteur, faut le comprendre. Mais c'est facile de s'amuser avec ça, puis de voir jusqu'où la technologie peut aller. Donc oui, c'est ça. Écoute, quand tu conduis des véhicules comme ça, des fois tu te demandes quasiment, tu te dis quasiment qu'il faut faire exprès pour le planter tellement il y a des assistances puis des bips sonores pour tout et pour rien. Mais c'est vraiment un véhicule qui est doté, c'est ça, de toutes ces technologies-là, disque coussin gonflable aussi de série. On met beaucoup l'emphase sur la sécurité avec les véhicules utilitaires. Donc, deux questions. Ben, la première, pourquoi est-ce que le véhicule, ou Tiger Woods a perdu le contrôle de ce véhicule-là? Puis la deuxième, heureusement, sa vie n'est pas en danger, donc ça peut être bénéfique pour l'image d'un constructeur comme Genesis. Peut-être que c'est la structure du véhicule puis toutes les technologies qui ont permis peut-être de sauver la vie du légendaire golfeur Tiger Woods.
On sait bien, parlons maintenant.
Pour l'image, pour le marketing, c'est vraiment intéressant de suivre ça puis de se demander est-ce que l'impact est positif ou négatif pour Genesis. Il y a peut-être un peu des deux. Mais pour une jeune marque comme ça, en tout cas, puis pour un nouveau modèle qui arrive à peine sur le marché, disons que c'est assez fracassant.
Bon, mais j'ai bien hâte que tu l'essayes. On s'en reparlera si je suis encore au micro. Écoute, une nouvelle voiture électrique chez Hyundai. On reste dans l'univers Hyundai, mais c'est quatre roues motrices. C'est intéressant. IONIQ 5?
Ouais, Hyundai qui développe plusieurs modèles électriques en ce moment qui vont tous être commercialisés sous l'appellation IONIQ. Donc, c'est une espèce de sous-marque qu'on utilise. On a quand même le logo Hyundai, là, c'est pas une nouvelle marque. Il y a déjà une Hyundai IONIQ qui existe depuis quelques années. Puis là, on arrive avec la IONIQ 5, qui, en gros, est la version de production d'un concept qu'on nous avait dévoilé l'année dernière au Salon de l'Auto de Montréal, juste avant que la COVID vienne tout chambouler. C'est un concept qui s'appelait Hyundai 45. Puis là, on arrive avec la Hyundai IONIQ 5, un véhicule. Puis là, c'est pas un concept, c'est vraiment un véhicule de production qui va arriver chez les concessionnaires du Québec, du Canada, dès cette année, comme année modèle 2022. C'est un véhicule entièrement électrique, tu l'as dit, qui va être disponible avec 4 roues motrices, 2 choix de batterie. On parle d'une autonomie qui pourrait dépasser les 400 km. Puis surtout un design, je pense, qui plaît à beaucoup de monde. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de commentaires très positifs. Allez voir les images, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu sur le site du Guide de l'Auto. Vraiment, on présente un design assez intéressant, à mon avis, qui va pas dans l'espèce de vaisseau spatial, le design un peu excentrique qu'on reproche à certains constructeurs avec les véhicules électriques. Donc, une autre belle preuve que la démocratisation des véhicules électriques, oui, c'est long, mais ça s'en vient. Reste à voir le prix de ce véhicule-là. J'ai très hâte de voir. Mais si Hyundai est agressif de ce côté-là, je pense qu'on va en vendre pas mal des IONIQ 5.
Tu parles de démocratisation des voitures électriques, ouais. Mais il y a une nouvelle décevante. Quant aux voitures électriques, la Mitsubishi Outlander.
Oui, effectivement, ça, c'est une autre nouvelle qui est sortie cette semaine qui est effectivement un peu plus décevante. L'Outlander PHEV, donc la version hybride rechargeable du Mitsubishi Outlander, donc qui est équipé, oui, d'un moteur à essence, mais aussi d'un moteur électrique qui permet de franchir quelques dizaines de kilomètres en mode 100% électrique. Donc, l'Outlander, jusqu'à 2020, PHEV pouvait franchir jusqu'à 35 kilomètres en mode électrique. Depuis ce temps-là, il y a d'autres modèles qui sont arrivés sur le marché, notamment le Toyota RAV4 Prime, qui, lui, est capable de franchir à peu près le double de ça en mode 100% électrique. Donc, Mitsubishi nous avait promis des changements pour 2021 au Outlander PHEV, une autonomie améliorée. Puis finalement, on arrive avec une nouvelle batterie à peine plus grosse, puis une autonomie qui passe de 35 à 39 km seulement. Donc, on reste dans l'ombre de Toyota avec le RAV4 Prime. Puis il y a Ford aussi qui s'en vient avec un Escape hybride rechargeable qui va offrir pas mal plus que ça. Donc, une petite déception quand même là du côté de Mitsubishi.
Ça, quand est-ce qu'on va avoir juste des autos électriques? Ça sent bien,
juste
pareil.
Des autos électriques, ça va prendre quand même pas mal de temps. Tu vois, au Québec, ben, il y a un projet de loi qui a été passé qui parle 2030, de 2035, hein? Si je ne m'abuse,
30 ou 35. Oui, 35, peut-être. Ouais.
L'adoption, je pense, quand ça va arriver, ça va être assez exponentiel. On le voit déjà depuis quelques années. Le coût de fabrication des batteries est en train de baisser, ce qui va permettre d'offrir des véhicules plus intéressants à des prix plus abordables. Éventuellement, bon, il va falloir enlever les subventions en lien avec tout ça, mais le prix des véhicules va égaler, ou même si tu fais des calculs, ça dépend des gens, comment ils roulent puis tout ça, mais il y a pour certaines personnes, en fait, pour beaucoup de gens, déjà acheter un véhicule, même un véhicule électrique, même si c'est plus cher à l'achat, ça devient rentable au bout de quelques années comparé à un véhicule à essence. Donc, le jour où les véhicules électriques vont devenir la norme, je pense, est pas si loin que ça. Ça semble loin en ce moment, ça reste assez marginal aujourd'hui, mais le jour où ça va embarquer, je pense que ça va embarquer assez rapidement.
Je sais pas si à ce moment-là, il va y avoir comme une passion pour les autos à essence, comme on a une passion pour le vinyle maintenant.
Je pense que oui.
Il paraît qu'il se vend plus de vinyle que de CD maintenant.
On pourrait faire le parallèle, Antoine, avec la transmission manuelle qui n'a plus vraiment sa raison d'être quand on y pense, parce que d'un point de vue rationnel, l'automatique fait des changements de rapport qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces, qui vont aller chercher une meilleure consommation de carburant. Et pourtant, il y a des irréductibles qui veulent encore une transmission manuelle parce qu'ils aiment ça, changer les rapports eux-mêmes. Je pense que ça va être un petit peu la même chose à
es-tu
plus long terme avec les
Frédéric,
véhicules.
Frédéric, es-tu de ceux-là?
Ah, absolument, absolument. Moi, j'ai
c'est
un véhicule
hein?
personnel avec une transmission manuelle. J'aime beaucoup. J'aime penser qu'au Québec, on est on est un peu plus amoureux de la transmission manuelle qu'ailleurs au Canada puis qu'aux États-Unis. Mais quand tu regardes les chiffres, ça demeure assez marginal par rapport à tous ces gens qui achètent des véhicules équipés d'une transmission automatique.
C'est de plus en plus difficile à trouver. Hein?
Pardon?
C'est de plus en plus difficile à trouver.
Ben c'est ça, c'est un peu inservicieux. Il y a moins de gens qui en veulent, donc les constructeurs en offrent moins. On les offre souvent sur des modèles d'entrée de gamme. Puis dès que tu veux un peu d'options, ben tu n'as pas le choix d'aller pour l'automatique. Donc les gens achètent encore moins de manuels. Parce que c'est ça, c'est vraiment inservicieux. Puis oui, c'est de plus en plus difficile à trouver. Mais comme la boîte manuelle, le parallèle que je voulais faire, c'est que les voitures à essence, à mon avis, vont toujours avoir une place. En tout cas, pendant encore longtemps, il y a des gens qui vont vouloir un véhicule qui on peut dire qu'il y a une arme ou qu'il y a une sonorité. C'est vraiment pas la même chose de conduire un véhicule électrique. Il y a énormément d'avantages. Mais pour certains puristes, ça remplacera jamais un bon vieux V8 américain. Ou même un petit moteur à 4 cylindres de je pense à des petites voitures de fun à conduire comme une Mazda MX-5 ou une Subaru BRZ, des petites voitures sport avec un moteur à essence. À mon avis, c'est quand même là pour rester.
Une vieille Jaguar V12.
Là, on va loin.
Manuel.
Côté fiabilité, par contre, je passerai mon tour.
Ah oui, hein? OK. Toi, tu dis que tu conduis manuel et c'est quelle sorte de voiture? Peux-tu en parler même si tu es au guide de l'auto?
Ben oui, avec plaisir. Écoute, moi, c'est vraiment un véhicule que je sors seulement l'été pour le plaisir. J'ai une vieille Porsche 944 qui était un petit modèle à l'époque, la Porsche d'entrée de gamme. Évidemment, avec une transmission manuelle à 5 rapports que je conduis vraiment pour le plaisir. Là, ça pourrait être comparé à quelqu'un qui conduit une moto, par exemple. Je prends ça quand il fait beau, puis c'est vraiment mon véhicule. C'est ça, pour le plaisir. Puis oui, il y a une transmission manuelle, puis je m'en donne à cœur joie parce que dans le cadre du travail que je fais au guide de l'auto, ben on essaie beaucoup de véhicules, puis les opportunités de conduire des véhicules à transmission manuelle sont de plus en plus rares.
Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup, Frédéric Mercier. C'était bien agréable.
Hey, ça me fait plaisir. Passe une belle journée.
Frédéric est chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. On fait une petite mini-pause, puis on parle à Alexandre Dubé après.